dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre numéro 56, et bien quasiment un an jour pour jour, hein, puisque la dernière fois qu'il était venu sur l'émission, c'était le 14 janvier 2014, nous sommes le 13 janvier 2015, c'est Cedjik, le développeur de YouCoin. Salut Cedjik.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour aux éditeurs.
Alors, YouCoin, évidemment, qui a le vent en poupe en ce moment, puisque tu as sorti hein, récemment la version 0.9.16, et puis dans le Monnaie Libre numéro 55, on a pu parler de Qtcoin, qui est le client YouCoin. Je pense que tu as suivi ça, évidemment.
Ah bah oui, bien sûr.
Alors, on va en reparler, on va revenir sur cette version 0.9.16, évidemment, de YouCoin pendant toute l'émission. Et puis, on va quand même parler d'un sujet lié, puisqu'on va parler des rencontres des monnaies libres, les FMM, ou Freedom Money Meeting en anglais, ou rencontres des monnaies libres en français, qui ont eu lieu il y a maintenant quasiment 2 mois à Paris. Et tu étais là, évidemment. Alors, comment ça s'est passé, ces rencontres des monnaies libres hein?
Alors les rencontres des monnaies libres donc cette année, alors c'était assez intense, hein. Il y a eu 4 jours, hein, donc c'était les plus longues FMM depuis le début. Bon, il n'y en a eu que 4, hein, mais celle-ci était très riche. Alors ce qui s'est passé, c'est surtout moi j'ai fait une intervention en fait sur les 2 premiers jours pour présenter donc YouCoin, les derniers changements voilà au niveau du développement. Donc ensuite on a fait les jours suivants on a fait un test de monnaie libre grandeur nature hein, avec le jeu de la corbeille hein, tu en reparleras et donc le dernier jour où c'était plus un jour de contribution pour de potentiels contributeurs qui ne sont pas développeurs en fait.
Ouais.
Voilà donc le premier jour moi je suis intervenu donc pour faire un état de l'avancement en fait et puis expliquer les derniers changements parce qu'il y a eu de gros changements en fait comparé au dernier Monnaie Libre d'il y a un an. Alors quelques détails rapidement en fait, c'est-à-dire que cet été j'ai fait le choix de recadrer un peu le développement du coin parce que je manque de temps, hein. Mine de rien je suis pas à fond du tout sur le projet, hein. J'ai une vie à côté hein, comme tout le monde. Et notamment, j'ai un boulot euro, donc voilà, ça limite le temps que je peux avoir sur YouCoin. Et donc, il a fallu que je fasse des choix, et notamment en termes d'architecture, voilà, j'ai dû limiter certains choix que j'avais fait auparavant. Donc concrètement, on va dire que YouCoin, aujourd'hui, ressemble beaucoup plus à un Bitcoin qu'auparavant. Alors... Pourquoi ce virage vers la blockchain en fait, c'est ça que je recopie du Bitcoin, c'est principalement parce qu'en fait ça marche déjà le Bitcoin, donc pourquoi ne pas réutiliser ce qui fonctionne, donc voilà le principal changement, et un deuxième qui est de plus utiliser OpenPGP. Alors bon bah, ça c'est des raisons techniques, mais bon je vous passe les détails quoi.
D'accord. Donc on va peut-être y revenir un peu plus tard. Et sur ce FMM4, donc ces 2 jours, tu as pu présenter comment tu as pu voir l'interaction avec les développeurs qui étaient présents?
Alors déjà il y a de nouveaux développeurs. Hein, ça, il y a eu notamment Vite, donc qui est passé sur le dernier épisode de Monnaie Libre, contributeur très actif s'il en est. J'ai rencontré aussi d'autres nouvelles personnes qui étaient d'ailleurs jamais venues aux rencontres des monnaies libres. Alors déjà ça fait un peu chaud au cœur de voir qu'il y a de nouveaux développeurs qui sont intéressés. Bon, je leur ai fait une présentation technique vraiment de YouCoin. Alors évidemment ils étaient aussi techniciens donc eux pouvaient recevoir l'information. Moi comment je l'ai vécu, c'est surtout que je me suis rendu compte un peu du fossé qu'il pouvait y avoir entre ce que moi je faisais et ce que les autres pouvaient en percevoir aussi, parce que mine de rien c'est quand même c'est vraiment très technique, hein. Tout développeur ne peut pas se l'approprier comme ça du jour au lendemain. Alors là-dessus c'est vrai qu'on manquait un peu de ressources, on va dire de documentation, c'est un peu ça qui est ressorti, pour pouvoir s'approprier YouCoin, mais rien d'impossible, donc ça c'est plutôt un bon point. Et puis bon, j'ai remarqué quand même que les gens étaient plutôt motivés. YouCoin, ça les branche. Alors c'est vrai que c'est la première, on va dire, fois que ça fonctionne, vraiment, on peut le voir, on peut. C'est beaucoup plus concret, quoi.
Ouais. Et alors, et après, comment tu as vécu la suite de ces journées? Notamment, mais tiens, puisque tu parlais, on va bien sûr parler de cette journée spéciale, bon, qui n'était pas une journée technique, mais je pense qu'elle a été quand même très sympathique et riche aussi d'enseignements. On a rencontré des contributeurs qui s'intéressaient au sujet pour venir jouer au jeu La Corbeille, hein, qui a été développé par Sybille Saint-Girons, Sybille qui était là d'ailleurs. Comment tu as vécu cette corbeille? Tu en as parlé un peu dans la vidéo, on t'entend d'ailleurs, puisque tu dis que le jouer, c'est quand même pas pareil que l'entendre parler. Et avec un peu de recul maintenant, comment tu vois cette journée spéciale corbeille là?
Ah oui, avec le recul, parce que c'est vrai que quand j'ai été interviewé, j'étais encore chaud. Hein,
Ouais.
donc là, avec le recul, c'est vraiment très très formateur. Hein, il n'y a pas à dire, ça chamboule. Hein, c'est subversif. Voilà, c'est vraiment le mot. Hein, ça permet vraiment de s'approprier le système monétaire. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais fait un post sur Facebook et même dans ma famille, on s'y intéressait à la vidéo, alors que bon, ils sont pas vraiment au courant de tout ça. Et donc voilà, ça les intéresse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer, hein, s'il est possible d'en organiser pour en faire d'autres.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, alors si y en a qui nous écoutent et qui font une expérience corbeille, et je sais qu'il y en a qui veulent le faire, il y en a qui ont déjà fait ou qui ont essayé de faire, il y en a qui n'ont pas réussi. Bon, parce que c'est vrai que bon, parfois les règles peuvent sembler un tout petit peu difficiles, mais en fait elles le sont pas tant que ça une fois qu'on s'y est habitué. Alors faut en faire quelques-uns. Bon, c'est vrai aussi que Sybille qui anime le jeu en a fait elle des dizaines et des dizaines. Donc forcément, elle est beaucoup plus à l'aise que quelqu'un qui animerait le jeu pour la première fois. Mais si on en fait, bien sûr, ce qui est bien, c'est d'enregistrer un petit compte-rendu, une vidéo, quelque chose pour aider aussi les autres à pouvoir y jouer. Voilà. Et puis éventuellement publier ses résultats si on a réussi à les noter. Alors évidemment, ça demande un peu d'organisation, mine de rien. C'est ce jeu à corbeille qui a l'air simple comme ça, mais souvent il faut une journée pour y jouer complètement. Alors une demi-journée minimum, hein, si on veut tester un ou deux systèmes monétaires. C'est amusant, mais il faut que ça soit préparé. Hein, voilà. Alors, parfois, il y a des gens qui veulent jouer, mais qui ne veulent pas préparer. Ça, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Et puis, alors, on a fait aussi une journée où on a parlé des contributions plus générales, la possibilité de faire des blogs, la possibilité de faire des études, des textes, des graphiques, voilà, voir des émissions audio, comme Monnaie Libre d'ailleurs, hein, ou d'autres choses, comme accueillir des événements. Tiens, ben, voilà, ça nous amène au dernier point de cette première partie, avant d'aller plus dans YouCoin, c'est évidemment l'annonce des FMM5 qu'on peut faire déjà aujourd'hui. Alors, même si on n'a pas ni la date ni le lieu, mais on sait que ça aura lieu en avril, mai ou juin, et que par contre, il y a une date de fin de proposition, hein, tu la connais.
Oui, je sais que c'est fin janvier, là, le 31 janvier.
Voilà, ouais, 31 janvier, donc on le dit parce que on a eu déjà dans le passé pour les FMM précédentes des propositions, mais qui parfois tardaient à venir, beaucoup trop proches de l'événement, donc auxquelles on n'a pas pu donner suite. Il faut maintenant, on essaye de caler l'événement plusieurs mois avant, parce qu'on a besoin aussi. Il faut bien comprendre ça. C'est pas, on fait pas ça par caprice, etc. Mais c'est parce que les gens qui veulent venir doivent se préparer. Je veux dire, c'est suivant le lieu où c'est, il faut qu'ils calent leur agenda. Il y a des gens qui parfois prennent des jours de congé pour venir ou sont obligés de s'organiser pour venir. Voilà, ça se fait pas forcément de façon simple pour venir. Donc il faut un peu de recul, disons, pour pouvoir bien préparer son événement, puisque c'est un événement qui, comme tu le disais tout à l'heure, est très riche, c'est très dense. Et puis bon, on parle évidemment d'informatique. C'est pas un sujet, voilà, sur lequel on vient sans un investissement, disons, assez important intellectuellement. Donc FMM5, dernière date de proposition, si vous voulez proposer. On sait qu'il y a des demandes, en tout cas il y a des aspirations un peu partout pour accueillir cet événement. Mais voilà, on se calera au 31 janvier, comme on l'a annoncé d'ailleurs depuis septembre. Alors YouCoin, on va revenir sur YouCoin. Tu en as déjà un peu parlé. Alors effectivement, en fait, mais tu parlais de blockchain, mais je crois qu'on peut dire que de toute façon, dès le protocole OpenUDC qui a été mis au point, même si le terme n'était pas employé, on avait déjà une blockchain en fait.
Oui, mais c'est une structure, voilà, c'est une topologie particulière de données. Donc finalement, on peut mettre celle qu'on veut. Après, là, C'est vrai que dans YouCoin, il y a une différence quand même, puisque on reprend un peu le processus de calcul, voilà, de calcul qui permet une synchronisation des données. Alors là, on rentre un peu dans la technique, mais voilà, c'est une chose qu'il n'y a pas dans OpenUDC. Il y a des avantages, des inconvénients, hein, comme dans tout choix, on va dire. Donc là, moi, j'ai choisi de faire celui-ci parce que je devais aller plus ou moins au plus simple pour moi, en fait, hein, et puis même pas que pour moi, c'est-à-dire que Bitcoin est déjà connu, ça aide aussi à intégrer des personnes qui connaissent déjà Bitcoin.
Voilà, alors pour le public quand même qui nous écoute, pour l'auditeur, hein, il faut qu'on précise quelque chose de très important, c'est que la technologie informatique, le code informatique, c'est pas le code de la monnaie. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit, je crois que dès le premier post que j'ai fait sur Bitcoin, qui doit dater de 2009, qu'on peut trouver sur créationmonétaire.info, hein, si vous cherchez à l'année 2009, vous tapez Bitcoin, je crois que c'est un des premiers posts qui a eu lieu sur le sujet en France. J'ai déjà dit que dès que ça sortait, alors qu'il n'était pas connu à ce moment-là du tout, hein, il venait à peine de sortir. J'ai dit c'est que la technologie était une merveille parce que c'est P2P etc. Je passe les détails parce que c'est pas le but, mais que le code de la monnaie, lui, n'était pas correct si on voulait avoir une monnaie libre, mais que la technologie et la monnaie, ce sont bien entendu deux choses différentes. Voilà, effectivement. Par exemple, si on veut gérer une base de données, on peut définir la structure des données. Pour autant, après qu'on fasse cette base de données en MySQL ou en autre chose, c'est un autre sujet. Voilà, c'est que la base de données, c'est quelque chose, la structure des données, c'en est une autre.
C'est tout à fait ça. En fait, le code monétaire, lui, il n'a pas changé, hein, dans YouCoin, hein. C'est toujours le
Voilà.
même.
Voilà. Donc, bah, faut bien comprendre ça. C'est pas parce que la technologie, disons, enfin la technologie. C'est la structure de données. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une blockchain si ce n'est une façon d'avoir une base de données historisée?
C'est ça, c'est tout à fait
C'est
ça.
que ça,
C'est une base de
hein.
données historisée et décentralisée, voilà.
Voilà, c'est simplement plutôt que de dire je range selon une modalité ceci ou cela, on dit que là on gère des blocs, mais les blocs se succèdent dans le temps. Voilà, donc
Voilà, c'est
faut
ça.
juste comprendre ça, c'est que ça en fait, hein. Ce n'est que ça. La blockchain c'est un mot compliqué pour quelque chose de très simple. C'est
Oui,
une.
bah, c'est le terme qu'utilise aussi Bitcoin, c'est le grand livre.
Oui, voilà, c'est un livre, oui, bien sûr. C'est un livre où les pages sont les blocs, tout simplement.
Voilà, mais
Voilà.
la particularité, c'est que on peut collectivement écrire, bon, collectivement, chacun l'un après l'autre, mais voilà, on peut tous écrire dedans alors qu'on n'est pas du tout les uns géographiquement à côté, quoi.
Voilà, c'est-à-dire c'est un livre à la fois historisé, mais spatialement étendu.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est un champ, c'est comme un champ en fait. Voilà. Alors donc voilà pour ce petit passage. Alors on va rappeler donc on l'a dit tout à l'heure, 14 janvier 2014, tu avais fait la première émission Monnaie Libre. Je trouve d'ailleurs une par an c'est pas assez, mais comme tu me disais, bon il faut avoir quelque chose maintenant. Donc tu as quelque chose puisque tu as sorti la 0.9.16. Et alors je rappelle quand même que ce premier Monnaie Libre c'était le numéro 47 si vous voulez le réécouter. Mais donc il y a eu des changements depuis, hein, donc tu viens de dire.
Des gros changements quand même, hein. C'est presque plus la même philosophie, hein.
C'est plus pareil. Alors 0.9.16, alors quand même un petit discours que tu vas nous faire. Pourquoi c'est quoi en général, comment on fait pour les versions? Pourquoi elle s'appelle 0.9.16 celle-là?
Alors déjà, donc c'est une notation qui est assez répandue, hein. C'est majeur, point mineur, point correction. Donc en gros, là, le zéro représente le fait que c'est pas une version qu'on considère comme exploitable, comme utilisable, on va dire, dans la vie de tous les jours. C'est
Ouais.
quelque chose qui est en test, quelque part en développement, quoi. Le numéro mineur, donc là aujourd'hui c'est le 9, c'est vraiment pour... C'est juste un incrément, quoi. C'est une version pour dire on est passé à autre chose depuis la 8. C'est pas juste des correctifs, c'est des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, typiquement, là, entre la 8 et la 9, alors je sais plus exactement, mais il y a eu des changements importants, probablement dans la blockchain, dans la façon de générer. Donc y a une rupture entre la version, entre deux mineurs. Et le correctif, bah voilà, c'est pour corriger des bugs. Voilà, on fait une version mineure, il n'y a pas de changement profond, mais des correctifs de bugs.
D'accord. Et alors à noter que tu me disais comme le 1 c'est majeur mais qu'on est déjà au 9, ça veut dire quand même qu'on approche d'une version majeure.
Ah oui, c'est oui, le 9 Même s'il est mineur, oui, on s'approche du 1 quand même.
Voilà.
Alors c'est, je vais mettre un 10 après, hein, je dis quand même. C'est un... Là, on est à 9, mais je mettrai 10 ensuite.
Ah, tu mettras 10.
Oui, parce que bon, on peut monter autant qu'on veut, hein, ce sont que des chiffres, mais c'est plus un indicateur, on va dire. Après, moi, en termes de développement, je peux vous dire où je vais.
Ouais, mais si tu dis 0,10, on va dire, mais t'es revenu en arrière parce que. Ah, ben non, parce que 10 c'est plus grand que. Pardon, oui, c'est vrai.
Voilà.
Ouais, mais comme c'est au 0 point, on pourrait penser que c'est une virgule.
Oui, bah, moi, je le
Donc,
dis, du coup, c'est pas une virgule.
c'est pas une virgule, d'accord. Mais en fait, tu nous confirmes qu'effectivement, c'est une, on approche d'une version majeure. Mais alors, on peut le savoir tout simplement par le fait que, comme on l'a dit déjà depuis le début, c'est que c'est déjà testable, qu'on l'a testé et qu'il y a déjà des monnaies en production, en fait. Hein. C'est des monnaies de
Oui.
test. C'est des productions de test, mais disons, c'est quand même, ça fonctionne, on peut, ça y est, on peut gérer sa monnaie, on peut voir les données, on peut générer une toile de confiance, on peut faire toutes les fonctions de base nécessitées par une monnaie libre. Voilà, alors après, bien sûr, il y a toujours tout un tas d'améliorations possibles à faire et de corrections et d'avancées, bien sûr, à mettre au point, mais on peut dire d'ores et déjà que Ucoin fonctionne. Ça, ce qui est un pas énorme par rapport à l'an dernier, tout simplement. Hein.
Bah oui, bah, ceux qui étaient présents au FMM4, notamment les 2 premiers jours, ont pu tester déjà. Et donc même plus tard, donc là depuis un mois, on a mis en place le Zeta Vrouzouf, voilà, donc une monnaie parfaitement symétrique, bon, qui a des paramètres propres, bon, toujours les mêmes règles, c'est juste les paramètres de la monnaie qui sont différents. C'est une monnaie qui vise à, comment dire, à avoir un dividende très rapproché, c'est-à-dire que là c'est tous les 3,5 jours, donc c'est pour en avoir deux par semaine, et deux dividendes par semaine. Le but c'est de pouvoir tester, comme pouvoir faire beaucoup de transactions, tout ça, tester le logiciel.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Donc,
Donc c'est une première monnaie de test, il y en aura d'autres. Hein. D'ailleurs, si des personnes veulent essayer, étant donné que maintenant on a quand même Qt Coin, hein, qui fonctionne aussi bien sur Linux que Windows, hein, faut le savoir. Sur Windows, ceux qui veulent essayer, c'est vraiment très très simple. Il y a juste à installer Python. Vous allez sur Internet, vous tapez Python, vous l'installez, donc c'est la version 3 de Python. Et ensuite, vous téléchargez Qtcoin, c'est un fichier zip, vous l'ouvrez et puis vous le lancez, hein.
voilà, et on peut déjà. Alors évidemment, si on le lance et qu'on ne se connecte pas,
Ah oui, bien sûr.
il faut pouvoir se connecter quand même à un réseau Ucoin.
Voilà,
Et
donc bah,
pour.
pour la procédure, après, il suffit d'aller sur les forums, hein. Il y a des posts aussi bien en anglais qu'en français quand même.
Ouais.
Donc il y a des instructions d'installation qui ont été données par Inso et Vite, hein, les contributeurs de Qtcoin. Donc voilà, ceux qui veulent faire le pas peuvent déjà le faire. C'est important pour eux certainement, déjà, pour pouvoir s'approprier un peu le fonctionnement du coin, et puis pour nous, pour qu'on ait des gens qui testent, parce que ça nous donne des retours sur les éventuels bugs ou les choses à améliorer, c'est important.
D'accord. Alors, pour revenir au développement actuel de YouCoin, comment tu pourrais nous détailler un peu ça en profondeur maintenant?
Alors, vis-à-vis de l'avancement, tu veux dire?
Oui, ou vis-à-vis des concepts, même y compris du code, hein, technique, ou vis-à-vis de la complexité, vis-à-vis des comment c'est organisé. Ah oui, d'ailleurs, on peut rappeler l'environnement de programmation aussi, peut-être.
Oui, donc c'est du Node.js. Hein. Donc en fait, Ucoin est en deux parties quelque part. Enfin, Ucoin, le cœur, c'est un serveur. Enfin, c'est un logiciel, hein, qui s'installe sur un serveur. Et il y a Qtcoin qui, non, ça c'est pas de moi, ça c'est de Inso et Vite, qui est un client. Donc moi, la partie serveur, ce logiciel-là, donc c'est du Node.js. Voilà. Donc c'est pas du C, c'est quelque chose dans le jargon, on appelle ça de plus haut niveau. C'est-à-dire que c'est moins compliqué pour moi de le faire que si je devais faire du C, par exemple. Voilà. Donc ça a cet avantage-là, ça a d'autres inconvénients, bien sûr. Mais en tout cas, donc c'est du Node.js. Alors ça veut dire c'est du JavaScript derrière.
Oui, on appelle ça du. Oui, on dit JavaScript, mais qui est un terme qui n'est
C'est
pas.
un langage de programmation à
Voilà.
part, hein, le JavaScript,
Voilà.
voilà, et au même titre que du C, mais voilà, c'est plus haut niveau, on fait pas les mêmes choses avec.
Voilà. Donc c'est un langage orienté objet, on peut dire. Hein.
Oui, plus ou
Voilà.
moins, oui, mais qui est probablement plus facile d'accès que
Ouais,
du C,
puis.
par exemple.
Voilà. Alors que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, mais ça aussi, c'est normal, c'est l'air du temps. Faire de la programmation aujourd'hui, c'est quand même plus simple qu'il y a 20 ou 30 ans, parce qu'effectivement, les langages sont beaucoup plus évolués. Même si à la fin, normalement, les compilateurs permettent de réduire tout ça en 0 et en 1, comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire que théoriquement, on n'est pas obligé d'utiliser de ce qu'on... Alors, on fait la différence aussi d'ailleurs entre langage interprété et langage compilé, on est d'accord,
Voilà,
hein?
bah, ça, typiquement, le JavaScript est interprété.
Voilà, il est interprété. Et est-ce qu'on peut envisager de le compiler ou est-ce qu'il y a des compilateurs aussi prévus dans ces langages-là ou
À ma connaissance, non, c'est vraiment interprété. Après, Ucoin n'est pas un logiciel qui demande forcément beaucoup de ressources. C'est non, il n'y a pas forcément besoin de ça, quoi. Donc, non, je crois pas qu'on puisse le compiler.
Mais en fait, théoriquement, il n'y a rien qui devrait pouvoir l'empêcher. C'est-à-dire si demain, des développeurs décident de dire bah, un serveur, enfin un code tournant sous Node.js, donc cet environnement de programmation écrit donc en JavaScript, on veut pouvoir en faire un compilé, il n'y a rien qui théoriquement l'empêche.
Bah, théoriquement, non, je crois pas. Après, c'est sûr qu'il est possible de réécrire Ucoin en C. Ça, c'est pas du tout impossible. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir un protocole à côté qui est rédigé alors en anglais, mais c'est le protocole qui est écrit sous forme de code avec JavaScript. On peut l'écrire sous forme de C, on peut l'écrire sous forme de Python, ce qu'on veut, quoi.
Bien sûr, oui, tout à fait. Donc là aussi, il faut distinguer. Hein. On voit bien ce qu'il faut distinguer. Hein. Le code de la monnaie n'est pas le code logiciel.
Oui.
Et le langage logiciel non plus n'est pas le code logiciel. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut aussi structurer son logiciel de façon abstraite. Hein, et le langage qu'on va choisir pour l'implémenter, c'est encore autre chose.
Oui, voilà, c'est ça. Je dirais que le protocole de Ucoin, qui est écrit en anglais, c'est un algorithme quelque part. Voilà, c'est l'algorithme, et puis après, on utilise le langage qu'on veut.
Voilà, exactement, tout à fait. Donc, c'est ça qui compte. À la limite, l'algorithme est plus important que le code,
Oui, bien sûr.
d'un
Ben,
point de vue.
quand on va dire code, je pense. Enfin, souvent, en fait, on se réfère à l'algorithme. C'est plus ça qu'on vise.
Alors, ça dépend le contexte. Après, c'est toujours pareil.
Bah ben, oui, bien sûr, bien sûr.
Ça dépend si on parle d'un développeur qui parle de son programme ou. Voilà. Donc, très bien. J'imaginais un peu la complexité. Parfois, on peut qualifier la complexité d'un logiciel tout simplement. C'est une des façons hein, de le faire. C'est pas la seule et elle est pas absolument efficace. Hein. On peut d'ailleurs démontrer mathématiquement qu'il n'y a pas de façon absolument efficace de le faire, mais au nombre de lignes de code hein, notamment. Alors tu me dis, je crois que combien tu me dis qu'il y aurait de lignes de code dans Ucoin?
Alors, je ne les ai pas comptés, hein. Ça peut se faire automatiquement, il y a des outils pour ça, mais je crois qu'on est dans la dizaine de milliers de lignes de code. Mais enfin, c'est petit et gros en même temps. Hein. Moi, je sais que là, le code actuellement, il n'est pas du tout factorisé, hein. Ça peut être réduit, mais enfin, c'est pas un gros programme en fait, hein.
Oui, alors, et pour se donner une idée, donc dizaines de milliers de lignes de code, c'est effectivement assez petit. En général, effectivement, les informaticiens essaient de réduire la complexité de leur programme à un nombre de lignes faible, quoi. Je ne sais pas combien, pour se faire une idée, je crois que j'avais vu une fois le nombre de lignes qu'avait Linux, le noyau Linux. Et je sais plus quel était le chiffre exact. Mais on peut chercher ça. Voilà, si vous écoutez, peut-être je peux regarder. Je vais essayer de voir, de faire une petite recherche en même temps. Noyau Linux, pour savoir nombre de lignes de code. Savoir ce que ça donne. Je sais pas si on a le. Si on a le. Ah, 11,5 millions. Hein, voilà, pour dire une. Voilà. 11,5 millions de lignes de code pour le noyau Linux. Alors ça doit être le noyau. Est-ce que c'est le noyau minimal ou le noyau.
En tout cas, ça a été écrit en C, donc c'est aussi c'est beaucoup de lignes pour.
Et voilà. C'est-à-dire que le C, forcément, il y a plus de lignes que si c'est un langage de haut niveau. Parce que le C, pour faire la même chose que l'appel à un objet, il faut peut-être plus de lignes. Hein, tout à fait.
Ouais, il y a beaucoup de détails en fait à ce que c'est.
Ouais, tout à fait, exactement. En fait, ça donne une idée, voilà, de ce qui peut être complexe ou pas. Alors évidemment, Linux, ça doit s'adapter à toutes les machines qui vont le faire tourner. C'est son but d'ailleurs, le but de noyau, c'est d'interfacer d'ailleurs l'environnement logiciel avec les machines. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est la complexité d'un programme. Et alors pour comparer, j'avais fait une petite étude rapide là. Je crois que j'ai devant moi un truc à rien à voir, mais bon, c'est l'enseignement de Ramakrishna, qui est un grand sage indien du 19e siècle. Et ce livre, qui est en format quoi, de type A5, qui est quand même un gros livre, hein, j'ai compté, il fait environ 20 000 lignes. Voilà. Donc YouCoin fait la moitié de l'enseignement de Ramakrishna en ligne de... C'est pas mal déjà. Hein? Donc on peut dire que YouCoin a de la sagesse alors un peu.
Ah, je sais pas, je serais là. Mais en tout cas, il va être réduit, hein, parce que aujourd'hui, je suis principalement seul sur le projet, mais ce qui serait bien, c'est que le code puisse être approprié par d'autres personnes. Et pour ça, faut il faut qu'il soit le plus clair possible.
Oui, bien sûr. Alors, on peut toujours améliorer ça plein de fois. Bon, il faut pas oublier qu'au début, Linux, ça s'est fait par un seul homme. Hein. Et toujours d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours Linus Torvald qui, en fait, valide les différentes couches d'amélioration de Linux. C'est-à-dire, le jour où il n'est plus là, ça va plus fonctionner de la même façon.
Oui, il me semble que c'est ce processus-là, oui, qui est à l'œuvre.
Voilà, donc là, on voit bien que, d'ailleurs, c'est là qu'on peut réfléchir, d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet, mais on peut en parler un tout petit peu, parce que c'est quand même un logiciel libre, du coin aussi. Mais c'est une des problématiques du logiciel libre, c'est la gouvernance. On parle souvent de dictateur éclairé dans tous les projets de logiciel libre, c'est-à-dire, en général, c'est le fondateur qui dicte un peu la manœuvre. Mais en fait, en pratique, c'est pas facile d'envisager de faire autrement, quoi, parce que c'est lui qui a écrit la plus grosse partie du code et que ceux qui viennent en général ne s'occupent que de petites parties et pas du tout, pas de l'ensemble. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de, il y a presque jamais de double compétence sur l'ensemble, en fait. Il y en a souvent qu'un, c'est le fondateur. Ce qui pose un souci, évidemment, quand le fondateur part ou qu'il n'est plus là pour X raisons. Donc, peut-être que pour des projets assez importants et sur du long terme, la problématique de savoir combien de personnes maîtrisent effectivement le tout, le cœur du projet, est une problématique de maintenance à long terme. Et quand je pense long terme, je pense forcément au-delà d'une durée de vie ou d'une demi-durée de vie, c'est-à-dire au-delà de 40 ans. Si on veut envisager un projet qui perdure au-delà de 40 ans, voire qui s'améliore de façon continue, on ne peut pas envisager qu'il soit maintenu par un seul homme, quoi.
Alors là-dessus, je sais qu'il existe quand même quelques solutions. En tout cas, dans le domaine du logiciel libre, ça arrive assez régulièrement. C'est que, en fait, le code est organisé de manière à ce qu'il y ait un point d'entrée, on va dire, pour les gens qui s'y intéresseraient. Donc au FMM4, pour le coup, je l'ai présenté, ça. C'est-à-dire que il y a des tests de fonctionnement de YouCoin qui sont écrits en ligne de code, hein, vraiment. Il y a une part de français dedans, enfin comment dire, de langage naturel plutôt, parce que c'est en anglais, mais il y a une partie de langage naturel qui permet de s'approprier le code petit à petit, en fait. On voit les fonctionnalités qui sont exposées sur des tests, voilà, des tests unitaires, des tests de fonctionnement, et ça permet donc de s'approprier vraiment le cœur petit à petit. Alors on a d'abord des tests qui vont être on va dire des tests de surface, voilà, et puis petit à petit on peut aller creuser les tests qui sont plus compliqués, histoire de s'approprier le code. Ça, c'est une façon de développer, par exemple, qui permet d'introduire les gens.
Oui, tout à fait. Donc, bah écoute, on va s'arrêter là pour cette première partie, Cédric, si tu veux bien. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver juste après pour continuer à parler de YouCoin et de ses développements, y compris d'ailleurs de l'actualité 2015, hein, parce que ça va nous intéresser. On voit bien que maintenant, ça y est, on a un logiciel qui fonctionne. Donc, comment on va voir cette actualité 2015 pour le projet YouCoin, hein, voire OpenUDC YouCoin, si on veut faire référence à OpenUDC. Comme protocole fondateur, hein, même s'il a changé dans YouCoin un peu. Est-ce que. Donc, alors, on va faire une pause. Alors, tu sais comment sont les pauses sur Monnaie Libre, Cédric?
Ah bah, pour la deuxième fois, oui.
Yes.
Les musiques sont libres.
Voilà, les musiques sont libres, comme le podcast. Voilà, donc on se retrouve juste après cette pause musicale sur Monnaie Libre avec Cédric, pour le projet YouCoin. À tout de suite.
Une certaine alchimie secrète, une certaine alchimie secrète circule. Librement le temps d'une nuit, librement le temps d'une nuit, sans lune, sans lune.
Braver l'amour reste notre seule lutte, braver l'amour reste notre seule lutte, braver l'amour reste notre seule lutte, braver l'amour. Reste notre seule lutte.
Voici de retour dans Monnaie Libre avec Cedjik, toujours avec nous pour nous parler de Ucoin, le projet donc 0.9.16, la version actuelle qui tourne avec le client Qtcoin et de nouveaux développeurs donc qui nous ont rejoints notamment et qui étaient présents aux rencontres des Monnaies Libres OpenUDC Ucoin et donc Ucoin en particulier. Donc alors Cedjik, sur le développement, je crois qu'on a vu un petit peu les différentes dimensions, hein, tu nous as parlé un peu, on a y compris parlé un peu de technique, on a parlé base de données historisée ou blockchain, hein, ce qui est le mot à la mode, hein, mais c'est un peu la même chose. Et donc tu prévois une année 2015, je crois bien, assez punchy, hein, suite à cette activation, je dirais, graphique que nous permet Qtcoin maintenant sur le projet, et l'arrivée de ces nouveaux développeurs qui le rejoignent, et les tests qui viennent avec. Alors, cette monnaie de test, Zeta Brosouf, elle a duré pendant combien de temps?
Alors, elle a duré un mois, là. C'était plus ou moins son but, en fait, hein, d'atteindre ce stade. Elle a duré un mois, il y a eu 6400 Zeta Brosouf de créés, donc de co-créés par chaque membre. Donc, ce qui représente un total, hein, de 64 dividendes universels, parce que bon, le chiffre de 6400 ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà, en relatif, on est 64 dividendes. Alors, on était 9 personnes, hein, à la fin, quand même. Donc, 9 personnes sur un mois, c'était des personnes qui sont venues notamment en cours de test. Et c'est des personnes qui sont devenues actives sur le forum, notamment donc une personne qui a été citée dans le podcast avec Inso et Vit. Alors c'est Toé Arc. Voilà, c'est il me semble que c'est un Allemand, une personne qui est activiste de revenus de base, alors qui se dit non informaticienne, mais qui pourtant sait gérer un Linux, a installé Ucoin sans aucun problème, même le client web qui montre des graphiques. Enfin bon, on a des contributeurs qui deviennent assez actifs, hein. Ça nous aide pas mal.
Oui, c'est plaisant, et puis ça permet d'avoir pas mal d'interactions, et effectivement, pour un développeur, c'est important quand même qu'il y ait quelques testeurs, bien sûr. Parce que c'est du temps aussi de tester, et ça permet d'avoir des retours, de corriger quelques petits problèmes. C'est quand même important, ça fait partie d'un projet. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire que tester, c'est pas important, ça l'est, et c'est utile aussi. Voilà. Alors, donc cette monnaie Zeta Brosouf, alors il y en aura d'autres. Alors, vu que tu as utilisé le terme Z maintenant pour la monnaie, qu'est-ce que tu vas faire après? Comment tu vas faire? Tu vas toujours l'appeler Brosouf ou les prochaines?
Oui, je pense que je vais continuer sur le Brosouf parce qu'on comprend bien que c'est des monnaies de test, enfin, j'espère en tout cas.
Ouais.
Alors, la prochaine, je pense que donc ce sera le Meta Brosouf. Voilà, puisqu'il va changer de forme. Alors, ce sera des paramètres différents. Puisque du coup, on a un retour quand même d'expérience sur les paramètres qu'on a utilisés pour le Zeta Brosouf.
Oui.
Donc, je vais en utiliser d'autres, plus pertinents, je trouve, parce que là, typiquement, on avait des paramètres où, au bout d'un mois, on devait tous se renouveler. Le client Qtcoin n'était pas prêt pour ça, parce que tout simplement, c'était pas à l'ordre du jour. Et bon, du coup, la communauté s'est plus ou moins effondrée sous ses propres règles. Donc voilà, aujourd'hui on va en démarrer une autre avec des paramètres. Donc j'aimerais qu'on simule une économie donc sur au moins 10 ans, mais en très peu de temps. Parce que là, avec le Zeta Brosouf, on aurait atteint, on va dire, le rythme de croisière d'une monnaie libre en 8 mois. C'était un peu trop long.
Non, c'est trop long.
Donc, voilà, donc là on va essayer de faire ça en quelques semaines. Ce serait bien.
Oui, bien sûr, oui, il ne faut pas que les tests soient trop longs, c'est normal, parce que tout simplement, les testeurs n'ont pas forcément le temps non plus de tout mettre à jour en permanence, parce que je crois que même pendant le test, il y a eu plusieurs mises à jour du noyau. Hein.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà,
il y a des choses et des retours, hein, très importants. Donc voilà, les tests qui ont été faits sur le dernier mois, c'est autant de bugs qu'on n'aura pas sur les décennies suivantes.
Ouais, donc c'est important, vous voyez, dans un projet, mais ça c'est vrai pour tous les projets informatiques, hein, donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont étudiants en informatique par exemple, ou qui s'intéressent à l'informatique de façon générale. Quand on fait un projet logiciel, il y a toujours une phase de test. Alors les phases de test en général sont annonciatrices d'un logiciel mûr, mais pas encore, efficace en termes de production. C'est-à-dire, on ne va pas encore le distribuer parce que les tests doivent passer l'épreuve, hein, voilà, on doit vérifier que tout fonctionne nickel dans un grand nombre de cas. Voilà, que tous les cas, un peu, même y compris d'ailleurs des cas exceptionnels, sont traités et qu'on vérifie que que le logiciel répond bien. Voilà, donc voilà, ce sont des étapes nécessaires pour la consolidation finale d'un logiciel nécessaire et qu'on ne peut pas ignorer. Ça revient à tester un avion avant de le mettre dans le commerce. Hein.
Oui,
ça serait dommage de tester ça sur les passagers. Quoi.
Ouais, c'est voilà, c'est ça.
Donc c'est un peu pareil. Alors, On a parlé donc de ces monnaies de test, je pense que c'est important d'avoir compris ça, qu'on est en pleine période, ça y est, de monnaie de test, hein, donc ça veut dire qu'on a franchi un cap technique tout à fait considérable. Alors on va parler maintenant de comment, en 2015, comment participer au projet Ucoin concrètement, du point de vue des développeurs, hein, je ne parlerai pas des points de vue... des contributeurs, disons, qui ne feraient pas du tout de technique, qui ne seraient même pas testeurs, mais comment on peut déjà rentrer dans le projet concrètement? Il faut faire quoi? Quelle étape il faut franchir pour participer?
Alors, je crois que aujourd'hui, ce sera plus sur la partie client qu'il faudrait intervenir, parce que Ucoin, le serveur, bon, c'est vrai que le code, il est encore frais dans ma tête, et de toute façon, il est voué à changer. Mais de toute manière, il est à peu près terminé, on va dire. Donc, il n'y a plus énormément de besoins là-dessus. Par contre, c'est vrai que sur les clients, bon, je sais qu'il y a des personnes actives. Je sais qu'il y a notamment, donc, en plus de Inso et Evit, il y a Kimamila qui voulait faire un client Android, par exemple. Et je pense que c'est plus là-dessus que les développeurs devraient s'activer, en fait, s'il y en a qui sont motivés. Parce que, voilà, c'est... On a besoin aujourd'hui en 2015, ça va être de l'utiliser vraiment.
Alors tu dis qu'il n'y a pas besoin de contributeurs sur le cœur. Je pense, j'ai envie de mettre un bémol dessus. C'est-à-dire que même si on n'est pas développeur du cœur, ce qui serait bien quand même aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'autres développeurs qui s'approprient le projet, ça peut poser des problèmes à long terme. Il y a aussi la doc, on a parlé de la doc en début, mais je veux dire, faire une documentation qui explique, on a parlé de l'algorithme de la monnaie, on a parlé, alors tu me dis, il y a déjà une doc en anglais, mais on peut la traduire par exemple, on pourrait la traduire, la mettre en forme différemment, et voir pourquoi pas aussi expliquer le code de Ucoin d'une autre façon que de façon purement technique.
Oui, c'est vrai que je limitais mon propos, on va dire, au code technique de Ucoin, mais c'est vrai que finalement, ça se limite pas à ça, il y a effectivement le protocole qui peut être traduit, qui peut être aussi amélioré, on va dire, dans la formulation, dans l'approche que j'ai donnée. C'est vrai que ça a été cité au FMM4 notamment, ça, de pouvoir reformuler le protocole autrement. Pas forcément dans le même document d'ailleurs, hein, faire un autre qui est introduit, on va dire, au protocole, pour pouvoir se l'approprier. Voilà, alors c'est vrai qu'au niveau du serveur, c'est pas s'il n'y a pas besoin de contributeurs, c'est que c'est pas forcément le principal à court terme. Après, à long terme, évidemment, si demain je ne suis plus là, voilà, je suis plus sur le projet ou pour d'autres raisons, c'est vrai qu'il vaudrait mieux qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'approprier, oui.
Oui. Et puis alors par contre là-dessus, si on veut apprendre comment fonctionne donc le cœur, y compris au niveau documentation ou au niveau même technique, donc la meilleure façon, bon, alors, c'est bien sûr de l'étudier d'abord tout seul si possible, ça peut être bien, mais sinon si on veut des explications de Cédric, le mieux aussi c'est de participer aux rencontres des monnaies libres, parce que on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les demandes. Parfois, mais c'est pareil, je reçois des demandes aussi pour expliquer la théorie relative de la monnaie, mais je ne peux pas me dédoubler en permanence. Donc, j'essaie de limiter mes interventions dans l'année. Et donc, il vaut mieux être là si dans ces endroits-là. J'en fais quand même plusieurs, mais voilà. On ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes n'importe quand. Donc, il vaut mieux venir aux événements, disons, spécifiques, prévus pour ça. Alors, donc on a parlé un peu de ça du cœur. Tu as parlé de Qtocoin, hein, donc la participation qui pouvait se faire là-dessus. Et pour rentrer sur le projet, donc c'est quoi le forum, le chat aussi?
Ah oui, alors ouais, l'idéal c'est quand même le forum, parce que ça permet d'avoir des messages et de participer de manière un peu décalée, parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'est pas toujours dispo. Alors le forum là-dessus, c'est plutôt pratique. Et puis en plus, il est devenu vraiment très actif. Moi, je passe tous les jours dessus. Hein. Je suis quasiment connecté en permanence. Hein. Après, il y a quand même le chat XMPP, qui est accessible depuis le site, depuis ucoin.io. Voilà, quand vous allez dessus, il y a un petit logo en bas de la page vous invitant à entrer un login et puis à venir parler. Alors c'est une manière hein, aussi de me contacter directement et rapidement. Après, voilà, je suis pas tout le temps disponible. Donc, par contre, il y a d'autres personnes qui sont toujours sur le chat aussi. Je pense qu'il y a souvent Inso, il y a souvent Vite, il y a souvent qui m'a mis là. Enfin, il y a pas mal de personnes, même toi, Stéphane, des fois, t'es dessus. Donc, il y a moyen de contacter les personnes par le biais du chat.
Ouais, voilà, qui est aussi d'ailleurs asynchrone, hein, c'est-à-dire qu'on peut poser une question et parfois on a la réponse le lendemain. Parce que
oui,
c'est,
oui, bien sûr. Oui. Bah, après, c'est vrai que c'est pas aussi bien structuré puisque tous les messages s'enchaînent. Donc voilà, c'est un peu difficile de s'y retrouver, contrairement à un forum où c'est un peu hiérarchisé, oui. Classé. Voilà.
Alors on emploie le double langage, hein, sur le projet YouCoin, puisqu'on fait. Alors c'est pas un double langage où on dit deux fois des choses différentes, non? Mais on utilise l'anglais et le français, hein, c'est-à-dire que, oui. Y compris sur le chat, des fois, on fait des discussions en français, mais quand il y a un anglais qui est là, qui pose des questions en anglais, ou enfin, je ne sais pas si en anglais ou pas, mais quand quelqu'un pose une question en anglais, on répond en anglais. Bon, voilà. Éventuellement, je pourrais répondre aussi en espagnol, mais pour l'instant, on n'en a pas.
Non, on a en allemand.
Voilà, on a en allemand, mais il pose en anglais, lui, hein, donc voilà.
Oui.
Donc, comme ça, le problème est résolu. Alors, cette année 2015, hein, qui démarre fort, hein, puisqu'on fait deux monnaies libres exceptionnelles dans le mois sur le même projet, je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de l'émission. Faut dire, c'est aujourd'hui le projet le plus avancé. À ma connaissance, sur le principe du monnaie libre. Hein. On voit des monnaies d'ailleurs extrêmement douteuses, hein, qui commencent à arriver sur le net en proposant des soi-disant revenus de base, et quand on essaie de trouver les règles, on ne les trouve pas. Hein, c'est que,
ah, je sais pas, tu parles de Bitnation, non?
Ouais, il y a ça, Bitnation ou ce genre de trucs qui ne sont pas du tout clairs, hein, donc méfiez-vous, hein, quand même. Nous, on serait ravis qu'il y ait une monnaie libre P2P avec un code clair qui annonce une monnaie à dividende universel, mais à condition évidemment qu'on puisse vérifier le code, ce qui semble le minimum, et le code de la monnaie en particulier, bien sûr, mais aussi le code logiciel, hein, sinon ça pose un problème, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus.
Je sais que j'ai vu d'autres. D'autres personnes d'ailleurs qui sont passées sur le chat proposant un autre système de monnaie. Alors bon, c'est pas des monnaies libres, mais ils essaient de s'en rapprocher, voilà, à revenu de base.
Oui, mais ils ont du mal, hein, c'est-à-dire que... Ouais. On voit qu'il y a un problème, il y a un blocage mental quand même.
Oui, bah nous, on a l'avantage d'être français, d'avoir lu la TRM, mais c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas accès à cette ressource. Voilà, il y a quand même une étape mentale à franchir, et bon... Si on n'a pas accès à la TRM, elle est difficile à passer, quoi.
Ouais, elle semble difficile.
Même quand on y a accès, c'est pas facile. Alors.
Ouais. On voit même des gens qui arrivent sur le projet YouCoin et puis qui parfois disent « Mais est-ce qu'on pourrait introduire une taxe ?»
Oui.
Donc, ils n'ont pas encore étudié vraiment à fond le code monétaire. Bon, alors ça, je vous invite à le faire. Hein. Il y a des vidéos là-dessus, hein, sur le dividende universel, la théorie relative de la monnaie. Il y a des vidéos qui expliquent un certain nombre de choses. Il y a aussi des textes. Il y a des auteurs maintenant différents, hein, j'en ai parlé plusieurs fois, David Chazalviel, la TRM en couleur, François Jorté qui a fait un travail aussi, qui est un économiste belge, hein, qui a fait un travail intéressant. Alors ces travaux sont intéressants sur le sujet, parce que ce sont des personnes qui ne connaissaient pas la TRM, qui se le sont appropriées et qui l'ont retravaillé pour l'exprimer de leur point de vue, sans la déformer. Voilà, c'est-à-dire que moi je peux vous assurer que ces deux auteurs-là, que ce soit David Chazalviel ou François Jorté, on travaille à terrain sans la déformer. Leurs résultats mathématiques sont corrects. Et après, l'interprétation qu'ils en font, peu importe. C'est normal qu'il y ait un point de vue relatif dessus, mais rien n'est déformé sur les fondements de la TRM et son développement. Voilà. Et donc ça commence à venir avec des gens qui font des travaux mathématiquement bien faits et corrects sur le sujet, ce qui est quand même important, parce qu'il faut éviter d'être flou et de ne pas être précis. Voilà. Alors donc, quoi d'autre? Alors 2015, on disait 2015, Cédric, le calendrier 2015, qu'est-ce qui va se passer?
Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc bah, déjà, un événement important, bah, c'est l'FMM5, hein, évidemment. Elles seront a priori au mois de juin quand même, donc c'est, dans l'idéal, ce serait le mois de juin en tout cas. Et donc ça fait déjà d'ici 5 mois, en tout il y aura 5 mois de passé, il va se passer énormément de choses au niveau de YouCoin quand même. Je peux pas dire exactement quoi, puisque ça dépend aussi des contributeurs qui vont nous rejoindre, du temps que moi j'ai personnellement pour YouCoin. Mais ce qui est sûr, c'est que on s'approche vraiment à grands pas d'une utilisation quotidienne d'une monnaie libre. Là, on est... Alors, ça, évidemment, le logiciel demandera aussi à être, on va dire, testé en production, un peu comme Bitcoin aujourd'hui. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est un test grandeur nature, hein, puisque eux-mêmes l'ont annoncé, enfin lui-même, on ne sait pas d'ailleurs qui c'est, Satoshi Nakamoto, en tout cas les fondateurs du Bitcoin, voilà, ont lancé ça, ça marchera peut-être, oui, non, on ne sait pas, c'est un test grandeur nature. Là, aujourd'hui, Ucoin, je dis vraiment, ce sont des tests, il y a de grandes chances que ça plante, puisque de toute façon, je mets les paramètres de manière à ce que ça ne survive pas. Enfin, c'est pas que je le fais exprès pour ça, mais les tests font que la monnaie ne survivra pas. Par contre, il est clair qu'un jour, donc dans les mois qui viennent, on va lancer une monnaie de test vraiment grandeur nature, quoi.
Ouais, donc avec, avec vraiment. Oui, une période de vie pour la monnaie qui va commencer à devenir considérable. Donc l'FMM5, alors est-ce qu'il y a, je pense que là aussi, maintenant qu'il y a un logiciel qui tourne, un client qui tourne, donc on peut montrer des choses, on peut faire donc des vidéos, d'ailleurs je vais sans doute en faire une, assez rapidement d'ailleurs, hein, pour montrer... le client Qtcoin lors de la prochaine monnaie de test, hein, c'est quelque chose que j'ai un peu annoncé sur le chat et que je vais faire. Tout simplement, ben d'abord, ça me fait plaisir, et puis ça me plaît, et puis ça, je pense que c'est bien d'expliquer comment ça fonctionne pour qui ne connaîtrait pas du tout. Mais alors, toi ou les autres développeurs ont-ils prévu, ou commencent-ils à penser en tout cas à aller aussi dans d'autres événements à l'extérieur un peu pour rencontrer des développeurs qui sont pas encore dans le projet mais qui voilà qui potentiellement ont déjà disons approché le sujet, ont déjà réfléchi et puis ils n'attendent plus que quelque chose, un moment déclencheur pour s'y mettre. Est-ce que vous allez faire cette démarche?
Bah, je sais que personnellement je vais essayer de me rendre dans les événements auxquels je peux me rendre. Alors ça, moi je sais que j'essaye d'avoir un logiciel Ucoin qui soit le plus mûr possible avant de m'adresser à des gens potentiellement intéressés. Alors bon, il y a un moment, il va falloir que j'arrête, il va falloir que je me rende quand même dans des événements pour en parler vraiment, parce qu'il y a un moment où de toute façon c'est plus aussi nécessaire de travailler sur le cœur que d'en parler. Là, c'est vrai que y a des événements, je pense au FOSDEM, au RMLL, enfin, c'est des lieux dans lesquels on pourrait en parler. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir y aller et avoir un exemple. Ça, maintenant, aujourd'hui, c'est faisable. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Après, concernant les autres personnes, je sais pas ce qu'ils comptent faire, mais c'est vrai que ce serait intéressant de faire une promotion. On va faire une promotion des monnaies libres et de Ucoin en particulier.
Donc il va falloir bientôt que Ucoin ait son propre blog alors, pour pouvoir annoncer aussi les événements où il va se rendre.
Ah oui, ce serait bien ça, ce serait super qu'il y ait un blog. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à annoncer, parce qu'en fait, voilà, d'un monnaie libre à l'autre, il se passe un an, d'une FMM à une autre, il se passe 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que je n'ai même plus en tête. C'est vrai que, ne serait-ce que pour un historique, le blog, c'est plutôt bien pour retracer tout ce qui s'est passé. Et oui, tenir les personnes au courant, voilà. C'est vrai que ça manque.
Bon, mais ça va, je pense que ça va venir assez vite. Je vois qui c'est qui va devoir s'y coller encore, au moins.
Ah. Non, pas forcément. Ouais. On va voir ce qu'on peut installer. C'est pareil, parce que un blog, ça se maintient. Moi, je peux pas tout faire. Heureusement qu'il y a, par exemple, Inso et Vite qui travaillent sur le client, parce que moi, je pourrais pas tout faire à la fois. Donc, il faut aussi qu'il y ait des personnes qui puissent maintenir le blog. Donc, voilà, avis aux amateurs. Bon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont prêts, mais voilà, faut qu'on organise tout ça. Il y a toujours une question d'énergie et de temps.
Tu vas faire quoi? Tu vas faire un blog WordPress ou tu vas utiliser d'autres outils?
Peu importe. Bah, tiens, par exemple, c'est vrai qu'il y a une personne qui est venue au FMM4, on n'en a pas parlé. Je me souviens plus de son prénom, mais c'est le fondateur de lecoincoin.fr.
Ouais.
Et ben, lui, par exemple, on parlait de WordPress au FMM4, il disait qu'il y avait aussi un autre moteur qui s'appelle Ghost, qui est basé sur Node.js, justement. Bon, voilà, il y a ces deux solutions-là, moi, qui m'intéressent. Je vais voir, en fait, c'est surtout, je vais laisser les personnes décider, quoi, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens s'approprient vraiment le projet. Donc, s'il y en a qui sont prêts à poster sur le blog, à le tenir, à le maintenir, eh bien, c'est eux qui feront le choix. Hein.
Bon, il va falloir lancer un fil sur le forum sur le sujet, alors.
Ouais,
Donc,
je pense,
ouais, donc alors oui, non, mais c'est important aussi parce que parfois on suit des projets au fil et à mesure qu'ils annoncent des choses et on s'y investit, simplement effectivement quand il y a des annonces d'événements, et c'est déjà pas mal, c'est déjà une façon de s'y investir, mais encore faut-il pouvoir suivre ça. Et ça ne veut pas dire qu'on suit tout ce qui se poste sur un forum, mais qu'on s'intéresse plutôt à des annonces plus importantes, quoi. D'accord, donc alors tu parlais du FOSDEM, voilà, je voulais revenir dessus parce qu'on y était allé avec Jibar, hein, le fondateur d'OpenUDC, je me rappelle, et puis aussi avec Glenux. Je sais pas si tu connais Glenux ou si tu as connu Glenux.
Uniquement de nom, hein, je n'ai pas
Voilà.
rencontré.
On y était allé au FOSDEM il y a, je sais plus combien de temps, par contre c'est 3 ans, quelque chose comme ça, je sais plus, 2 ou 3 ans. C'était à Bruxelles, je crois que c'est toujours à Bruxelles que ça se passe. Donc le FOSDEM, c'est une rencontre internationale, hein, de développeurs logiciels, plutôt libre d'ailleurs, enfin même essentiellement libre, hein, c'est libre, c'est plutôt logiciel libre. Et donc et que ça se fait plutôt en anglais, parce que c'est vraiment international, mais il y a des gens qui viennent du monde entier pour ça. Et ce serait un lieu tout à fait intéressant. Je sais. Alors je sais que cette année, c'est bon, ça doit être bouclé, hein, parce que c'est fin janvier. Mais donc si on veut aller à ce type d'événement, bien sûr, il faut s'y prendre à l'avance, pas 2 mois avant, il faut s'y prendre au moins 6 mois avant pour proposer sa présence. Alors que ça peut être sous forme, souvent ça peut être sous forme de stand de présentation, soit de conférence, soit de hacking party, c'est-à-dire de rencontres vraiment de développeurs qui veulent travailler le code. Il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend ce qu'on veut faire et ce qu'on va chercher. Évidemment, on s'adapte. Voilà, donc juste, il faut prévoir ce genre de choses. Alors je dis ça aussi pour ceux qui nous écoutent et qui eux-mêmes organisent éventuellement des rencontres de monnaie libre ou des rencontres de logiciels libres au sens large plutôt. Évidemment, Youcon étant un logiciel libre est concerné. Aussi, quand on organise un événement, il faut bien sûr prévoir le temps. Voilà, ce qui nous ramène à la problématique des rencontres des monnaies libres. C'est pour ça qu'il faut ce délai. Alors, quoi d'autre pour 2015? On a parlé, donc peut-être, il y aura peut-être un blog assez vite maintenant. Et puis, il y aura peut-être aussi, donc on a vu, enfin, c'est sûr, il y aura les FMM5, il y aura peut-être des présences au RMLL par exemple. On a parlé peut-être du FOSDEM, mais dans ce cas-là, ça serait 2016. Et quoi d'autre pour 2015, peut-être pour terminer cette émission, Cédric?
Pas d'autres événements en fait. Hein. C'est tout événement potentiel sera le bienvenu. Enfin après c'est toujours une histoire de disponibilité personnelle des intervenants et puis voilà, nos capacités techniques aussi à intervenir. Ça se fera petit à petit de toute façon, mais plus les choses vont aller, plus on participera à ce genre d'événement.
D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des rencontres prévues possibles sur le net? Je crois qu'il y a aussi des groupes de développeurs qui se rencontrent sur des Mumble, par exemple, des choses comme ça.
Aujourd'hui, non, c'est pas prévu, non. Mais pourquoi pas, hein.
D'accord.
C'est une possibilité.
Autre chose pour cette année 2015 ou...
Non, on a globalement fait le tour, hein, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont venir d'un coup. Là, c'est pour donner une petite idée quand même. Ucoin, ça fait quasiment 2 ans, hein, ça fait 20 mois, il me semble. Là, on n'a jamais été aussi près d'une monnaie libre. En tout cas, dans ce qu'on pense, c'est possible, parce qu'après, évidemment, il y a toujours les tests en grandeur nature qui vont nous révéler si c'est possible ou pas. Moi, je pense que oui, mais bon, il faudra toujours effectuer l'expérimentation. Hein. Et là, mais là, on est quand même dans une espèce d'effervescence à notre petite échelle. Là, comment dire, les choses s'accélèrent quand même.
D'accord. Alors peut-être pour terminer quand même cette émission, on va essayer de partir sur un sujet, on va s'évader un peu et parler d'un sujet plus vaste hein, pour demander ton avis. Évidemment sur Monnaie Libre, on a parlé beaucoup de Monnaie Libre, on a parlé d'OpenUDC, on a parlé de Ucoin, on a parlé de MoneyM avec le fondateur aussi de MoneyM, hein, qui est une forme de Monnaie Libre, bon, c'est centralisé, etc. Et on en a parlé plusieurs fois, il est venu 2 fois sur l'émission. Mais Rome aussi, on a parlé du Bitcoin avec Pierre Noaza, qui est un des acteurs du Bitcoin en France, qui n'est pas une monnaie libre hein, selon l'ATRM, mais qui a des caractéristiques intéressantes quand même. La preuve, on en a parlé aussi là. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'économie au sens large et de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en 2014 dans l'économie, notamment au niveau monétaire? Est-ce que tu as suivi un peu et qu'est-ce que tu en retiens au niveau international?
Alors moi, ma vision n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois, c'est-à-dire que on est toujours dans un système de monnaie dette avec même cause, même effet, voilà. On sent quand même que... Alors moi, je sens la déflation avant même qu'on l'ait annoncée, ça fait déjà au moins un an que je la voyais venir. Depuis que je me suis plus ou moins intéressé à la monnaie, quand j'ai compris comment ça faisait, comment ça fonctionnait, je me suis dit, ça nous pend au nez. Évidemment, bingo, ça arrive. Après, effectivement, on voit que le quantitative easing arrive. Donc le quantitative easing pour les uns et pas pour les autres, bien sûr. Et je pense qu'on va continuer dans cette spirale un peu déflationniste, parce que le moral n'y est pas, qu'il n'y a pas de crédit. Enfin voilà, c'est les choses empirent. Voilà, y a rien qui s'arrange là. Enfin, je vois toujours une situation. Catastrophique.
D'accord. Et au niveau international, est-ce que tu as suivi un peu ce qui se tramait, notamment relativement, à l'utilisation du dollar?
Ah oui, bah, le dollar est abandonné petit à petit, va être remplacé par autre chose. Mais oui, c'est sûr qu'il perd son hégémonie. C'est sûr que la guerre des monnaies est là, quoi.
D'accord, ouais. C'est une bonne analyse, hein. C'est court, mais c'est précis. Alors oui, effectivement, pour en rajouter quelque chose, c'est qu'on voit bien que les manœuvres, que ce soit de la Russie ou de la Chine, vont dans le sens de créer des sortes de FMI alternatifs, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire leurs propres fonds internationaux dans leurs devises, avec des pays alliés dans leur propre zone d'influence. Alors qu'aujourd'hui, ils utilisaient encore tous comme monnaie, disons, d'échange international, la monnaie américaine. Et maintenant, ils ont compris, évidemment, que bah, la monnaie américaine sert avant tout les intérêts du gouvernement américain. Je vais même pas dire de tous les Américains, puisque
Évidemment,
voilà, on
c'est pas
sait,
eux.
voilà, il faut éviter de mélanger les termes, puisque effectivement, le gouvernement américain, c'est pas tous les Américains. Si on questionnait tous les Américains un par un, on verrait bien que les avis divergent. Donc, notamment sur qui reçoit les dollars en premier, que ce soit en Amérique ou en dehors de l'Amérique. Voilà, donc on vit une période de tension à cause de cette émergence de puissances alternatives, y compris donc qui ont compris le rôle de la monnaie et qui surtout, parce que le comprendre c'est une chose, mais veulent développer vraiment une alternative à ce monopole international monétaire, enfin ce monopole, disons ce quasi-monopole, c'est pas tout à fait un monopole, mais c'est quand même une prégnance en tout cas internationale, voilà. Donc il y a des développements de monnaies alternatives, y compris d'ailleurs de réseaux bancaires alternatifs, hein, puisque je crois bien qu'en Russie aussi, ils veulent développer leur propre réseau de cartes de paiement. Hein. Voilà.
Oui, j'ai vu une information comme ça, oui.
Voilà, donc. Outre le fait d'utiliser de moins en moins le dollar comme monnaie de réserve. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'était pour aller un peu vers le général. C'est bien d'en parler un peu aussi, hein, parce que sur Monnaie Libre, on critique aussi les monnaies non libres. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, quoi.
Mais plus le temps passe, moins on s'y attarde. C'est vrai que
Oui.
bon, une fois qu'on pense avoir compris, voilà, on voit la sortie, ça sert à rien de regarder 46 fois derrière soi.
Oui.
Voilà, on a compris, on va ailleurs, voilà.
Voilà, oui, alors voilà, alors ça aussi, c'est un des sujets, effectivement, que j'essaie d'affirmer. Ça sert à rien de passer sa vie à critiquer quelque chose qui ne marche pas. Je veux dire, si on n'est pas capable de mettre en place quelque chose de mieux, eh bien, qui le fera? Parce que s'il n'y a rien de mieux jusqu'à présent, c'est que personne n'a trouvé. Donc, si on n'est pas capable soi-même de trouver quelque chose, bon, c'est bien de critiquer, ceci dit, hein, ça démarre par la critique, hein, mais. Il faut essayer de trouver une solution. Alors parfois on la trouve pas aussi, hein, c'est le problème. Hein. Mais quand on en a trouvé une, après, il suffit pas de l'avoir trouvée, de dire, par exemple, il faudrait un revenu de base pour tous. Si on n'est pas capable de le mettre en œuvre soi-même, ben là aussi, ça veut dire que ben, on ne voit pas trop comment, ni pour quelle raison, ceux qui tiennent le pouvoir le lâcheraient. Pour faire
oui,
simple.
D'autant que on peut les croire naïfs sur le sujet, moi j'ai un peu du mal à y croire.
Oui, bon, mais encore ça, Oui, mais ça. Vous voyez, mais. Je ne suis pas sûr que ce soit de la naïveté ou pas de la naïveté. Moi, je pense aussi qu'il y a une sortie d'inertie. Hein. Il y a une inertie.
Oui.
Hier, quand il y a un gros truc qui a été mis en place pendant 40 ans, pendant 80 ans, bon, ben, on ne peut pas le changer d'un claquement de doigts. Et voilà. Et donc, en face, la critique a beau critiquer. On a beau critiquer un train qui fonce, ou un 36 tonnes qui fonce à pleine allure, ça ne s'arrête pas comme ça, l'inertie, quoi. Voilà. Et la solution, c'est pas toujours de vouloir arrêter l'inertie. Parfois, faut sauter du train carrément. Faut pas espérer qu'il va s'arrêter tout seul, parce que parfois, il s'arrêtera pas. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, sur cette note d'espoir, hein. Donc, on va se quitter là, Cédric, pour cette nouvelle émission Monnaie Libre avec toi sur le projet Ucoin, donc qui est en plein boom en ce moment. Pour 2015, qui risque d'être une belle année, hein, pour le projet, une année d'expansion, une année de développement de nouvelles fonctionnalités, de codes, de clients, de serveurs, d'événements avec de nouveaux développeurs qui nous ont rejoints déjà, et peut-être d'autres encore. Hein, mais, comme je vous dis, chaque année, il y a de nouveaux entrants qui arrivent dans le monde et qui, et parmi eux, il y en a quelques-uns qui prennent conscience du problème monétaire et ont compris qu'on pouvait développer une monnaie libre et donc qui nous rejoindront. Soit cette année, soit l'an prochain, peu importe, nous on continue le travail, il faut continuer si on veut y arriver, parce que voilà, c'est en avançant qu'on arrive à destination. Merci Cédric.
Merci Stéphane.
Merci à tous, merci de nous avoir suivis sur ce Monnaie Libre, les auditeurs. On va vous laisser avec, là encore, une monnaie libre, une musique libre sur Monnaie Libre. C'est bien sûr notre générique fétiche No More Dreams de Nighter.